4 euros.
Service, s'il vous plaît, on enlève un cabillaud, pousse d'épinards.
Europe 1.
Et une cuisse de volaille, s'il vous plaît.
11h, midi 30, la table des bons vivants, Laurent Bariotte.
Bien le bonjour, amis de la table et de la fourchette, du marché jusqu'à la cuisine, en passant par les arrières-cuisines de notre alimentation. Nous sommes là, vous le savez, pour mieux manger et puis comprendre ce que nous mangeons. Alors avant de recevoir Julie Andrieux, la belle ambassadrice de nos régions, nous consacrons notre dossier du jour à l'importance de manger avec plaisir. 100% plaisir, vous entendrez. Et en voici du plaisir avec les bons vivants du jour. Pour lui, les mots sont aussi importants que les mets qu'il compose. Franc Ducollier, c'est Yves Candebord. Bonjour Yves.
Bonjour et avec plaisir Laurent.
Ben, on est ravis de vous retrouver.
Bonjour Olivier.
Il fait reluire son tire-bouchon et connaît ses vignobles sur le bout des doigts. C'est un ami qui nous veut du vin. C'est Olivier Pouls.
Oh, mais très en forme en début d'année.
C'est le 11 janvier, on est au taquet.
Bon, bonjour Yves, bonjour Laurent. Et c'est vrai que je ne conçois pas d'ailleurs qu'on puisse manger autrement qu'avec plaisir. Il faudrait m'expliquer comment on pourrait manger différemment.
On va faire un beau dossier sur ça, vous entendrez. Jean-Luc Petit-Renaud nous racontera son samedi entre rugby et cassoulet. Et Marion Sauveur nous dévoilera évidemment son journal de la cuisine. Vous savez tout. Alors, avant de reprendre la route du marché, retrouvons ensemble le goût qui a marqué notre palais cette semaine. On va commencer par vous, tiens Yves Candebord. Quel est votre goût de la semaine?
Eh bien, moi, c'est un légume de saison. Un légume, comme on dit, oublié, le cron.
On dirait une petite vis, hein.
On dirait une petite vis. Voilà, c'est légèrement nacre, c'est doux au toucher.
J'adore.
Et c'est très intéressant parce que voilà, il faut simplement les nettoyer en les frottant dans un linge.
Ouais, on ne sait jamais comment les éplucher en fait.
On les épluche pas.
Non, surtout pas.
Surtout pas.
Ça, c'est le bizutage dans les cuisines. Hein, quand un apprenti arrive, on lui dit tiens, tu vas m'éplucher les crônes. C'est un tortillon, ah, donc t'imagines.
Voilà. Donc un torchon du gros sel, on les frotte, on les rince et après, il faut les cuire très simplement. Surtout pas les mettre dans de l'eau. Voilà, il faut les cuire avec un beurre. Ce qui est marrant, c'est prendre un beurre aromatisé comme un beurre d'algue.
Ah oui.
Juste un beurre d'algue, rôtir les crônes pendant 2-3 minutes. Et là, vous avez une jolie petite garniture, soit d'un poisson, soit d'une viande blanche.
Alors, c'est pas très bon marché, mais il n'en faut pas une tonne non plus. Hein.
Exactement. C'est vrai que ça coûte entre 20 et 25 euros le kilo.
Ouais.
Mais bon, quand vous le ramenez à la portion, on ne met jamais plus de 80 grammes. Donc, ça reste quand même très raisonnable.
Exactement.
Et surtout, cette saison, et c'est original. Et surtout, c'est très bon.
Bravo Yves Candebord. Votre goût de la semaine, Olivier Pouls.
Mais je prends ces crônes parce que ces crônes pourraient accompagner mon goût de la semaine. Parce que moi, j'ai fait une aile de raie à la grenobloise.
Alors là, c'est bon, parfait.
Ça marche bien.
Délicieux poisson. On n'y pense pas souvent. C'est pareil, on ne sait pas très bien comment la faire. En fait, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas d'arête. Enfin, l'arête est tellement centrale.
C'est un cartilage,
qu'il y a rien.
Oui.
C'est un cartilage. Moi, je l'ai cuit délicatement au four, tranquillement, avec un petit peu de vin blanc et quelques rondelles de citron, etc. J'ai fait une sauce dans l'idée d'une grenobloise, hein, avec des petits croûtons de pain, avec des câpres, avec du jus de citron, avec de l'huile d'olive. Et moi, je mettrais bien une belle poêlée de crône avec ça en accompagnement. Ce serait parfait.
Et moi, je viendrais bien manger.
Deux goûts qui se rassemblent. C'est beau. Bah, tiens, je vous fais le dessert, moi, parce que mon goût de la semaine, c'est de la confiture de clémentine corse. Porter ça de mes vacances d'été en Corse et tous les matins sur une tartine de pain grillé avec un bon beurre, une belle confiture de clémentine corse. J'adore ça parce que c'est suave, c'est acidulé et ça donne justement ce petit côté peps et ensoleillé.
C'est l'été en hiver.
C'est un peu ça, c'est un petit peu ça. Alors direction Lille maintenant pour faire notre marché ce samedi. Lionel Gougelot, le correspondant d'Europe 1 dans le Nord, vous a demandé, amis auditeurs, quelles envies provoquaient chez vous les étals de l'hiver. Alors on écoute vos idées de recettes sur les Halles de Oisem.
Nous, on fait beaucoup de lasagne, on fait des saucisses purées, on fait des choux farcis. De toute façon, on n'a pas le budget pour continuer à acheter du foie gras et du saumon et ce genre de choses. Et puis, c'est pas très raisonnable, non. Pour le reste, on fait surtout ce que les enfants aiment.
C'est-à-dire ?
On essaye de planquer les légumes dans à peu près tous les plats.
Là, j'ai pris des choux de Bruxelles. Je vais les faire avec des oignons, je vais les faire avec un petit peu de curry. Et je vais faire une petite purée céleri pomme de terre avec de l'ail, de l'huile d'olive et un peu d'épices.
Donc on peut faire des plats conviviaux avec des légumes.
Tout à fait.
On essaye de manger un peu plus de potage, vous voyez. Les potes au feu, voilà, les choses mijotées un peu, qui réchauffent. Et se promener, sortir, voir les commerçants, tout est bien.
Mais vous avez raison, madame. Allons voir les commerçants et réchauffons-nous avec le pot-au-feu.
Et mijotons.
Et le pot-au-feu qui, au passage, est un plat diététique, hein, parce que le bouillon, vraiment, c'est léger. C'est une viande pochée, le pot-au-feu.
Ah, il a été dégraissé. S'il est correctement dégraissé, il y a effectivement très très peu de matière grasse au final. Puis c'est des légumes. Hein.
Et puis le chou de Bruxelles, à propos de légumes, voilà, moi, c'est vraiment des légumes du moment. C'est un des légumes du mois de janvier.
Je passe mon tour.
C'est un légume qui est très intéressant. On a été un peu écuré du chou de Bruxelles, souvent à la cantine scolaire,
oui,
malheureusement.
Sur cuisson, baignant dans son jus de cuisson.
Aujourd'hui, on peut arriver à faire des plats très intéressants. Et moi, ce que j'adore faire, c'est enlever les premières feuilles, les conserver, cuire les petits choux de Bruxelles entiers, souvent dans une eau salée, et les petites feuilles de dessus, je les blanchis très légèrement, je les accommode avec un peu de graines de pavot, des petites juliennes de kumquat, et que je les remets après sur mon plat de choux de Bruxelles qui est cuit, ça fait un côté cuit cru qui est très intéressant.
Et le kumquat bien venir.
Kumquat qui est un agrume, et c'est vrai que les agrumes marchent bien avec le choux de Bruxelles. Alors si je vous dis figatelle, copa, lons, prisoute, vous
je
me dites...
Vous dis... L'île de beauté.
L'île de beauté. On revient dans un instant, le temps de préparer le plateau de charcuterie made in Corsica. A tout de suite sur Europe 1 et bon samedi si vous venez d'arriver.
On passe à table sur Europe 1. Laurent Mariotte.
Une main sur l'oreille et on y va, quelle beauté. Nous sommes d'humeur charcutière ce samedi et du coup, eh bien, nous allons mettre la Corse, vous l'entendez, sur un plateau. Alors que les choses soient claires, il est question des vraies charcuteries corses artisanales fabriquées avec des porcs élevés sur l'île et non venues d'ailleurs et transformées ensuite en Corse, comme on peut le voir malheureusement tout au long de l'année, Yves Candebord.
Oui, c'est vrai que c'est malheureux, la charcuterie corse des fois elle est trompée.
Elle n'est pas assez protégée, il n'y a pas de cahier des charges qui la protège assez en fait.
Oui, mais après il y a toujours, je dirais, des âmes malpensantes qui pensent que business, qui pensent pas qualité, qui pensent pas tradition. Alors que la charcuterie corse est une des charcuteries françaises les plus abouties.
Le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de cochons aussi en Corse pour produire de la charcuterie au niveau de la demande qui, évidemment, est énorme.
Et pour les pinzout en été, pour les touristes en été, on va chercher des cochons élevés en Bretagne de façon intensive parfois et qu'on transforme sur l'île et on appelle ça saucisse en Corse.
Après, il ne faut pas dire qu'il n'y a que ça surtout parce qu'il y a vraiment énormément de producteurs qui font des produits d'exception. Laurent, une copa.
Alors on en parle justement des belles charcuteries artisanales.
Une vraie échine de porc corse, c'est juste merveilleux, c'est onctueux, ça, ce petit coup de noisette. Le lons avec la longe de porc, c'est pareil. Il y a une vraie spécificité. En plus, moi qui dis ça en tant que fils de charcutier, béarnais, et on a des produits chez nous exceptionnels, mais je dois reconnaître que quand je vais là-bas...
Vous les avez adoptés.
Voilà, je les ai adoptés parce que c'est vraiment au-dessus. Après, Laurent, l'histoire du saucisson d'âne, c'est...
Ah ben c'est une légende. Mais oui,
ça n'existe pas.
Il faut le dire à tout le monde. Ne vous faites pas avoir. Ça n'existe pas.
Alors moi j'ai dans les mains ce qu'on appelle la figatelle. C'est une saucisse qui est là, elle est moelleuse. Elle est entre moelleuse et sèche. C'est une saucisse corse composée en majorité de foie de porc et parfumée aux épices et à l'ail. Et on va aller justement dans l'atelier de Pierre Toussaint Poli. C'est Frédéric Michel, notre correspondant dans le Sud-Est, qui est allé lui rendre visite sur son exploitation agricole. La recette de la figatelle et ensuite on vous expliquera comment on la consomme et comment on peut la cuisiner.
Écoutez, le figatelle c'est une saucisse essentiellement à base d'abats, à base de foie qui est fabriquée en Corse. La typicité va faire que dans certaines zones la recette va être différente. Nous on fume un petit peu, dans certaines zones ils font pas du tout de fumage. Mais bon voilà, le figatelle ça reste le figatelle.
Il faut une terre particulière, des porcs particuliers.
Alors oui, des porcs particuliers, donc le porc austral qui est une race reconnue aujourd'hui. Le porc insulaire qui est de couleur soit noire soit grise. Et après, une terre particulière, non, une finition particulière. Gland, châtaigne, c'est les ressources que l'on trouve en abondance en Corse. C'est notre façon d'élever les porcs de manière libre sur des parcours. Et donc, ils prélèvent cette ressource et ça donne un goût particulier à la charcuterie.
Là on va goûter un morceau, donc cuit au feu de bois.
Oui, vous voyez, cuit au feu de bois si possible, bien sûr. Au four, bon, mais pour ceux qui n'ont pas de feu de bois, ils peuvent le faire, mais bon, c'est pas pareil. C'est une ambiance, c'est un tout.
Vous le préférez comment, vous ?
Alors, on le prépare tout simplement, pas trop cuit parce qu'il faut garder un petit peu le jus de cuisson à l'intérieur. Il ne faut pas le faire trop sécher, avec un bon morceau de pain, bien trempé de son jus et avec des amis, un bon verre de vin. Ce n'est pas une pièce d'affinage. Par contre, le figatelle peut se consommer sec.
Et le séchage, c'est à peu près combien de temps si on le préfère de cette façon-là, façon saucisson, on va dire ?
Il est un mois et demi.
Ah, il en parle bien, Pierre Toussaint Poli. Merci Frédéric Michel pour ce reportage sur l'île de beauté. Alors c'est vrai que le figatelle se présente au début sous forme d'une saucisse un petit peu molle avec du moelleux, Olivier Pouls.
Bah oui, on en a là, c'est vraiment délicieux.
C'est bon.
Ça se mange frais, c'est vrai que c'est comme ça que c'est le meilleur. Ça ressemble un peu à un boudin un peu mou en réalité. Mais quelle puissance de goût, quelle explosion dans la bouche. Et en même temps, c'est très suave. Moi, j'adore ça.
Et
c'est
pareil, il y a une saison pour ça, effectivement. Ouais. On ne fait pas ça n'importe quand.
Ben oui, puisqu'on tue les cochons en hiver, donc on mange la figatelle en hiver. Donc la figatelle du mois d'août, on la laisse de côté.
Voilà, c'est pareil, c'est pour les pins d'août.
C'est à la Sainte-Lucie.
Oui.
Voilà, les Corses disent toujours, à partir de la Sainte-Lucie, on peut commencer à faire le cochon. Parce que pour eux, la Sainte-Lucie, c'est à ce moment-là que l'hiver est vraiment présent sur l'île.
Là, c'est Terra Corsa, qui est une épicerie spécialisée dans les ingrédients corses à Paris, qui nous la fournit. Et c'est vrai que là, on est dans la vraie charcuterie artisanale comme on aime. Quoi, hein.
Et alors, j'ai eu la chance de monter sur un petit village au-dessus de Bastia, à San Martino d'Ilota, chez Christian et Joël Benigni, qui sont des charcutiers, qui sont sur le marché de Bastia une fois par semaine. Et je peux vous assurer qu'ils font une figatelle qui est exceptionnelle.
Elle est très bonne, celle-ci. Qu'est-ce qu'on boit avec ça, Olivier Pouls?
Ben on va rester en Corse.
Parce que c'est relevé, ça a du caractère, ça. Hein,
ah donc oui, c'est puissant.
Savez, les vins corses ont du caractère. Et c'est vrai que c'est peut-être un peu trop puissant pour des vins rouges, où les tanins vont venir probablement un peu se bloquer. Mais un joli vin blanc très sec,
ah, pas mal,
qui va ramener un peu d'acidité justement pour nettoyer la bouche, un joli vin blanc sec de Corse, ce serait parfait.
Ah bah voilà, un joli vin blanc sec de Corse pour nettoyer la bouche, que demander de mieux, franchement. Retrouver le plaisir de manger sans complexe, sans se priver, c'est notre dossier de la semaine. Alors plutôt que de manger sans, les amis, mangeons avec plaisir. Ce sera juste après le journal de la cuisine de Marion Sauveur.
Et
à tout de suite.
Vous pouvez compter sur moi.
Hein. J'en doute pas.
Europe 1, la table des bons vivants. Laurent Mariotte.
Être un bon vivant, c'est partager les plaisirs de la table sans forcément se vautrer dans les excès. Bien manger sans se priver, sans renoncer, c'est ce que nous allons faire avec du bon sens et avec les conseils avisés du docteur Jean-Philippe Zermati qui est en train d'arriver. Mais juste avant, c'est le moment d'accueillir Marion Sauveur pour son journal de la cuisine. Bonjour Marion.
Bonjour à tous.
Bonjour Marion.
Et il s'en passe des choses dans notre assiette. Écoutez plutôt les titres du journal. Les huîtres contaminées par la gastro-entérite, le commerce alimentaire grandit sur le net et les homo sapiens mangeaient des légumes grillés, dites donc. Eh bien voici les titres de votre journal. Des huîtres interdites à la pêche et à la commercialisation, Marion.
Oui, des arrêtés ont été votés par les préfectures de Charente-Maritime et de Bretagne en ce début d'année. Plusieurs sites ostréicoles sont concernés par une contamination au norovirus, responsable notamment de la gastro-entérite. Ce virus généré par l'homme pourrait être arrivé via les eaux usées. Mais rassurez-vous, les huîtres en vente sont donc bien saines.
Les Français se convertissent de plus en plus à l'e-commerce alimentaire.
Et ça n'est pas prêt d'arrêter. Hein. Selon une étude de Kantar, d'ici 5 ans, 8% des produits alimentaires seront achetés en ligne. De plus en plus de plateformes se développent pour commander des produits frais tout droit venus des producteurs et livrés à la maison. C'est déjà le cas d'Amazon et de sa boutique des producteurs ou de start-up comme à l'ancienne ou encore Tozzi & Co.
Oui, conservons le plaisir d'aller au marché hein, comme on le fait au début de l'émission et puis aussi préservons nos commerces de proximité quand même. À la préhistoire, on cuisinait déjà.
Oui, des restes carbonisés de tubercules ont été découverts par des archéologues dans la grotte Border Cave en Afrique du Sud. Ils datent de 170 000 ans, ce qui prouve que l'homme de cette époque ne mangeait pas forcément sur place ce qu'il cueillait et surtout qu'il le partageait avec son groupe. C'était donc déjà un bon vivant.
Ah bah oui, bienvenue au club. Alors Marion, on passe à votre cerise sur le gâteau. Vous avez découvert la première application qui répertorie les restaurants selon ses préférences alimentaires.
Et oui, ça s'appelle It's Possible, une application donc pour dénicher les restaurants selon que l'on est par exemple végétarien ou vegan, qu'on mange des plats sans gluten, sans poisson ou sans fruits à coque par exemple.
Ouais, comme Olivier Pouls.
Et si on mange tout ça. Par exemple.
Comment ça marche alors?
Alors, il suffit de rentrer ses choix alimentaires et ensuite vous cherchez un restaurant dans un quartier ou une ville ou un restaurant précis. C'est une application qui est collaborative puisque les utilisateurs peuvent ajouter eux-mêmes leur restaurant, faire des commentaires. Ça permet donc de découvrir de nouvelles adresse et de trouver des restaurants qui ne proposent pas que des plats adaptés à un seul régime alimentaire. Par exemple, si vous allez manger avec Olivier Pouls, vous pouvez l'inviter à manger de la viande et vous, vous pouvez manger que des légumes peut-être.
Et moi, très vous ne voulez pas manger avec moi.
Mais si, bien sûr, Yves.
Comment ? Il y a beaucoup de restaurants référencés.
Alors, il y en a 500, hein, surtout dans les grandes villes, Paris, Bordeaux, Lyon, mais également, bien sûr, à Aix-en-Provence, Nice ou Biarritz.
Merci Marion Sauveur. Le plaisir de manger. Alors, être un bon vivant, un bon mangeur, rime souvent avec manger mal, manger trop. C'est un peu ce qu'on a fait parfois pendant les fêtes. Pourtant, le plaisir de manger est nécessaire à chaque fois qu'on mange. Retrouver le plaisir de manger, c'est ce qu'on fait tout de suite avec le docteur Jean-Philippe Zermati, médecin nutritionniste et psychothérapeute et auteur du livre « Osez manger ». Bonjour docteur.
Bonjour.
Dans
Bonjour.
Mes bras, mon ami.
Vous venez de publier « Osez manger » aux éditions Odile Jacob. On n'ose plus manger aujourd'hui, ça veut dire ?
On n'ose plus manger de façon sereine. On mange avec beaucoup trop d'anxiété, de culpabilité, d'appréhension. Ça ne permet pas d'éprouver un plaisir total.
Vous pensez aussi, quand vous dites ça, aux tendances et aux modes alimentaires, sans gluten, vegan ?
Alors je pense à cet ensemble de choses, mais je pense surtout à des problématiques de poids, parce que c'est quand même la problématique très très centrale aujourd'hui.
Les régimes, c'est vrai qu'entre les régimes, les scandales alimentaires et les tendances, on est en face parfois d'une certaine anxiété alimentaire, comme vous le dites dans le livre. Hein.
Exactement. Cette anxiété, alors d'une part, nous empêche d'éprouver un plaisir intégral, et le fait de perdre ce plaisir, en fait, nous désapprend à manger.
On parle beaucoup de l'importance de se laisser guider par la satiété, hein, cette fameuse sensation qui renvoie à notre cerveau le signal qu'on a assez mangé. Vous vous dites qu'il faut surtout écouter son désir, son envie.
J'ai beaucoup contribué à développer cette idée qu'il fallait respecter la faim et la satiété. Bon, il s'est avéré, après quelques années d'expérience clinique, que ça pouvait entraîner quelques complications. Finalement, en poursuivant mes recherches, j'ai compris que il y a deux systèmes qui contrôlent le comportement alimentaire. Il y a le système des besoins qui est exprimé par la faim et la satiété. Et à côté, parallèlement, le système des envies de manger. Et en fait, nous avons envie de manger ce dont nous avons besoin. Et le système qui se dérègle n'est pas le système de la faim et de la satiété. En général, il est en place. C'est le système des envies qui va se dérégler. C'est là-dessus qu'on doit travailler. Et en fait, on constate que les dérèglements sont provoqués par le fait de lutter en permanence contre toutes les envies de manger.
Oui, en gros, vous dites qu'il faut qu'on s'écoute, quoi. Hein ?
Il faut qu'on apprenne à respecter, à répondre à nos envies de manger. Et à partir de là, les envies redeviennent l'expression des besoins.
Et ben c'est ce qu'on va faire. Trouver le plaisir de manger, s'écouter, ne pas avoir peur de manger ce qui nous fait envie. On continue de se mettre à table avec le docteur Zermati juste après ça.
On passe à table sur Europe 1. Laurent Mariotte.
Entre les injonctions santé et beauté, à être mince, le temps passé devant les écrans, le plaisir de manger est de plus en plus difficile à trouver pour certains d'entre nous. Alors on reprend les bases ce samedi à table, aujourd'hui avec le docteur Zermati, médecin nutritionniste, auteur de « Oser manger » aux éditions Odile Jacob. Docteur, janvier rime souvent avec régime. Selon vous, ça sert à rien en fait les régimes du début de l'année là ?
Alors c'est pas selon moi, hein. Moi, je ne fais que vous rapporter un certain nombre d'études qui ont été collectées depuis des années et des années. Et en particulier, je pense à ce qu'on appelle une méta-analyse, c'est-à-dire une personne qui a recensé toutes les études qui ont été faites sur les régimes et qui montre que systématiquement, après un régime, 95% des gens reprennent le poids qu'ils avaient perdu et que 40% en reprennent plus qu'ils n'en avaient perdu.
C'est bien fait de pas en faire. En fait.
Les fameux régimes yo-yo, non mais ça peut abîmer la santé complètement. C'est pas toujours facile de manger la bonne portion. C'est vrai qu'aujourd'hui on partage beaucoup aussi au restaurant, on aime bien être rassuré parfois encore par des plats généreux et imposants dans les assiettes. Yves Candebord, même aux États-Unis, on voit qu'on n'est pas du tout égaux devant les portions. Hein.
Non, c'est très étonnant. Il y a eu des études de fait, par exemple, on va prendre un exemple assez simple, le restaurant chinois aux États-Unis servent pratiquement le double de portions qu'un restaurant chinois en France. Et il y a une étude de marketing qui a été faite par le professeur Pierre Chadon qui explique qu'aujourd'hui, on mange, les portions sont trois fois plus grosses que dans les années 70.
Qu'est-ce que vous en pensez, docteur Zermati?
C'est tout à fait vrai. Les portions par rapport à celles des années 70 sont beaucoup plus importantes, alors qu'elles auraient dû diminuer.
Bah oui, parce qu'on est moins
on a un peu moins
d'activité physique.
Mais c'est vrai qu'après, au quotidien, Laurent, aussi, il y a une chose importante à dire. C'est vrai qu'on a eu la tendance, par rapport à ce côté convivial, ce partage, de faire des plats qu'on partageait. Et je ne suis pas sûr que pour l'équilibre personnel des uns et des autres et des enfants, ce soit une solution. Mieux vaut faire une jolie assiette qui soit bien équilibrée et que chacun ait son assiette et sa portion. Et souvent, c'est largement suffisant.
Je suis d'accord avec vous.
Parce qu'on a tendance, parce qu'on la gourmandise, de se laisser aller, d'aller repiocher.
Docteur Zermati, est-ce qu'on n'a pas confondu parfois bien manger et beaucoup manger et trop manger du coup ?
Bien manger, synonyme de beaucoup manger, pouvait être justifié à une époque de pénurie. Aujourd'hui, notre problème, c'est l'abondance, c'est l'hyperabondance. Donc bien manger aujourd'hui, c'est plus beaucoup manger. On va mourir de trop manger aujourd'hui. Bien manger aujourd'hui, c'est finalement beaucoup plus qualitatif. C'est beaucoup plus être présent gustativement, sensoriellement à l'acte de manger.
Ouais, on revient toujours sur la phrase « mieux, mais moins ».
Le mieux entraîne le moins. Voilà, tout simplement. Vous
Parce
mangez.
Le mieux amène le plaisir supplémentaire.
Oui, et sans le plaisir, vous ne savez pas manger. En fait, c'est le plaisir qui est régulateur des quantités. Il faut comprendre que souvent dans les régimes, on dit aux gens vous allez faire votre régime, mais n'oubliez pas de vous faire plaisir de temps en temps. C'est la phrase la plus stupide qu'on puisse prononcer, se faire plaisir de temps en temps. Le plaisir doit être constant dans l'acte alimentaire. Il doit accompagner la totalité des repas, de la première bouchée jusqu'à la dernière bouchée. Et en fait, tant qu'il y a du plaisir, ça veut dire que vous ne pouvez, c'est pas encore trop. Et quand le plaisir s'arrête, ça veut dire que c'est là que vous devez arrêter de manger. Mais
il y a plus de 2000 ans, les philosophes grecs réfléchissaient déjà au concept de plaisir. Et celui qu'on associe d'ailleurs souvent au plaisir de la table, c'est Épicure. Et pas forcément dans le sens où on l'entend aujourd'hui, hein, Olivier Pouls.
Non, parce que les Grecs étaient des gens très sages. Et Épicure prenait la modération. Il prenait le plaisir, mais la modération aussi. Alors après, ça pensait à dévier un petit peu. L'épicurisme, on a pensé que c'était effectivement l'orgie absolue. Mais ce n'est pas du tout ça. Les Grecs ont toujours prôné une forme de modération. Mais moi, je voudrais revenir sur une petite chose. C'est le côté anxiogène aujourd'hui qui a mangé. Il n'y a pas une semaine sans qu'on voit sortir une étude où le gras n'est pas bon, où le ceci est trop cela. Et en fait, on n'arrête pas de nous faire peur. Et en gros, il n'y aurait plus que des légumes à l'eau qui seraient bons pour notre santé.
Et encore.
Et encore, parce que vous le dites, d'ailleurs, une calorie chez un légume ou une calorie dans un morceau de chocolat, c'est une calorie de toute façon.
C'est une calorie. Alors, on s'est beaucoup interrogé pour savoir qu'est-ce qui était le plus efficace, manger moins gras, manger moins sucré. Et en fait, le débat est vraiment clos. Il y a un chercheur qui a recensé 3517 études qui ont été faites pour essayer de départager ceux qui prétendaient qu'il valait mieux manger moins gras ou ceux qui prétendaient qu'il valait mieux manger moins sucré. La conclusion de ces 3500 études, c'est que le résultat est strictement identique. Et la deuxième conclusion, c'est que dans le régime, qu'il soit moins gras ou moins sucré, le point commun, c'est que personne n'arrive à les faire, ces régimes.
Alors si j'ai envie de manger un chocolat, par exemple, même si j'en ai mangé plein pendant les fêtes et que j'en ai pas besoin, est-ce que je le mange ou pas? Là, on a un chocolat chacun devant nous.
Ah bah oui.
Là, voilà, c'est pas forcément l'heure de manger un chocolat, on va bientôt passer à table. Si j'en ai envie maintenant...
Si vous en avez envie, vous le mangez. Vous ne mangez pas n'importe comment.
Corse, moi.
Vous ne mangez pas en bossant, par exemple.
C'est ça. Pas devant un écran.
Et pas devant un micro.
Et quoique, si je me tais.
Quoique, ouais, voilà. Voilà.
Non, mais on peut parler de la bouche pleine ici.
Ce que je veux dire, c'est que, en fait, vous pouvez le manger à condition de vous y mettre une attention suffisante. Il faut que vous soyez là. Il faut que vous soyez présent à ce que vous êtes en train de faire. Donc, si j'ai envie, je mange le chocolat, mais je déguste ce chocolat. Ce qui veut dire deux choses. La première, c'est que je suis très présent aux sensations que ça va me procurer. Et la deuxième, c'est que je ne vais pas m'embarrasser d'aucune considération concernant une injonction, une interdiction, une nuisance que ça pourrait apporter.
Mais une étude a montré d'ailleurs que la culpabilité faisait grossir aussi, hein, quand on veut faire trop attention et qu'on se culpe. Et là, si je le mange en me disant « Oh là là, je vais le manger, mais il ne faut pas que je le mange, ce chocolat. »
En fait, l'anxiété, la culpabilité va dérégler les processus de rassasiement et vous allez manger plus.
C'est ça. Bon, ben voilà, ça, vous mettez de l'eau à notre moulin. Donc, en gros, et si on devait définir tout ça, docteur Zermati, tout n'est encore une fois qu'une question d'équilibre et de bon sens, non?
Mais la question, c'est de savoir comment vous obtenez l'équilibre. On est naturellement programmé pour manger ce dont nous avons besoin. Et c'est ça l'équilibre, c'est manger ce dont on a besoin. Il suffit d'être à l'écoute de ses sensations alimentaires. Et ça, nous l'avons perdu. Et notamment du fait de toutes ces injonctions qu'on reçoit de part et d'autre sur les aliments, sur la manière de manger, sur la manière de régler son poids, etc.
Oui, et puis vous le dites dans le livre, on n'est pas tous égaux devant nos besoins. Il y a des grands, des gros, des petits, des moyens, des maigres, des joufflus, des trapus.
Bah alors voilà, bon, il faut se faire une raison. On ne sera pas tous, on sera pas tous des Brad Pitt ou.
mais moi, je me trouve très bien. Hein.
Mais vous êtes très bien. je vous le confirme.
Eh ben merci. C'est très beau notre.
Merci Jean-Philippe Zermati d'avoir remis le plaisir au centre de nos assiettes. Osez manger, libérez-vous du contrôle, paru chez Odile Jacob. Bon pour le climat, bon pour l'estomac, c'est la thématique du prochain banquet qu'organise le Musée de l'Homme. On en parle dans un instant avec le chef étoilé Régis Marcon, s'il vous plaît, qui compose le menu avec un chercheur d'alimentation. Merci docteur Zermati.
Avec plaisir, c'est moi qui vous remercie.
Europe 1, la table des bons vivants, Laurent Mariotte.
Merci d'être à l'écoute de la table des bons vivants. Je mange, donc je suis, c'est le nom d'une exposition qui se tient actuellement au Musée de l'Homme à Paris. Alors, vous en avez déjà parlé en octobre dernier pour l'inauguration. Le musée organise des banquets thématiques et après un repas pensé autour de la préhistoire, le prochain banquet début février sera placé sous le signe de l'écologie, bon pour le climat, bon pour l'estomac. Et en cuisine, le chef triplement étoilé de Saint-Bonnet-le-Froid, rien que ça, Régis Marcon, qui est avec nous au téléphone. Bonjour Régis Marcon.
Oui, bonjour, bonjour à tous.
Ravis bonjour Régis, bonjour. De vous entendre à la table des bons vivants. Alors Régis Marcon, vous qui êtes installé à Saint-Bonnet-le-Froid en Haute-Loire, vous êtes connu pour une grande cuisine autour du champignon, entre autres. Le champignon qui est un produit très dépendant du climat. C'est naturel pour vous donc de réunir le climat et l'estomac ?
Oui, c'est notre jardin naturel autour de chez nous. Forcément, on peut se poser des questions par rapport au changement climatique. Qu'est-ce qu'on mangera demain ? Et je pense qu'il est urgent, et on le fait déjà, nous avons commencé bien entendu, de donner beaucoup plus de sens à notre alimentation et peut-être revoir un petit peu notre regard, voir notre comportement vis-à-vis de la nature.
Alors au Musée de l'Homme, le menu bon pour le climat, bon pour l'estomac, ne sera pas entièrement végétarien, contrairement à ce qu'on pourrait croire.
Bah oui, parce que moi je me porte en faux forcément comme, en tant que cuisinier, par mes racines, par mon apprentissage je dirais, et mon éducation. Devant cette mode du végétarien à tout prix, ça peut même peut-être être dangereux, surtout pour les enfants, et montrer que la volaille, la viande, a toute sa place.
Sacrément. Et Régis Marcon, un petit mot sur le menu, justement, qu'on pourra déguster au Musée de l'Homme.
D'abord, c'est raconter un peu l'histoire des produits, voir les traditions, les peuplades qui ont pu les produire. On parle des hommes, on parle de développement durable, mais pas le mot à la mode. Simplement, ce qui est important, c'est comment on se comporte vis-à-vis de ces produits. On parlera aussi, et ça me tient à cœur, de toutes ces qualités nutritionnelles des produits. Alors pour vous donner, je ne dis pas pour vous faire saliver, mais vous donner petit peu le menu, on va parler d'un produit que maintenant tout le monde connaît bien, qui est le riz des Incas, qu'on appelle le quinoa. Parce que le quinoa, il a une histoire. Il a une histoire, il a été ramené par Christophe Colomb, il a été abandonné parce que mal transporté, mal conservé. On n'en a plus entendu parler, on a entendu parler de l'amarante qui était sa cousine. Et puis voilà, on est allé en Amérique du Sud la redécouvrir. Et l'intérêt de cette graine qui n'est pas une céréale en soi, parce qu'elle contient les 8 acides aminés. Ce qui explique d'ailleurs toute son histoire avec les Incas, les Espagnols qui coupaient la main des paysans parce que ça avait un rapport avec leur religion. Vous voyez, il y a chaque fois une histoire à raconter.
Et pour le dessert,
et on finira par un domaine qui nous est cher, c'est toute la partie fruits, les pommes. Il faut savoir qu'on a eu de la chance, enfin la chance ou une malchance, en 87-86, je crois, quand il y a eu une tempête assez importante en France qui a détruit près du tiers des pommiers en France. Quelques érudits se sont mis à regreffer des pommiers et on a réussi grâce à eux, et on leur doit beaucoup, à récupérer beaucoup de variétés anciennes qui, s'ils n'avaient pas fait tout ce travail, ils seraient disparus. Donc il y a une histoire.
Et du bon sens.
On parle de nutrition, on parle d'hommes, on parle de culture. C'est faire vivre cet échange autour de la table, parce que combien, on le sait, nous cuisiniers, nous tous, combien c'est important d'être autour de table pour discuter de tous ces sujets-là.
Ah bah, qu'il dites-vous. Eh bien, merci infiniment, Régis Marcon, d'avoir pris le temps d'être avec nous au téléphone. Et à bientôt au Musée de l'Homme. Et sinon, on vient vous voir à Saint-Bonnet-le-Froid, en Haute-Loire.
Avec grand plaisir.
Au revoir, Régis.
Au revoir, Régis.
Merci d'avoir été là. Ce sera le jeudi 6 février au Musée de l'Homme, place du Trocadéro à Paris. Un banquet, 65 € entrée plat dessert, composé par Régis Marcon. Il reste encore quelques places, c'est pour ça qu'on vous en parle.
Laurent Mariotte sur Europe 1.
Nous sommes samedi et c'est le jour que Jean-Luc Petit-Renaud a choisi pour se confesser. Alors il nous avoue aujourd'hui son péché mignon du samedi après-midi, un bon cassoulet suivi d'un petit rituel. Alors écoutez le camarade Jean-Luc Petit-Renaud, bien installé sur la banquette du Café Constant à Paris. Bien le bonjour l'ami Jean-Luc.
Bonjour mes bons vivants, mes beaux camarades. Vous avez peut-être des habitudes, vous, le dimanche, du fameux poulet du dimanche avec ses frites légèrement dorées. Moi, j'ai une autre habitude qui est le cassoulet du samedi. Alors, le cassoulet du samedi, je vais chez mon ami Christian Constant, qui le fait à merveille. D'ailleurs, il est champion du monde du cassoulet. Je vais chez lui et je mange un beau cassoulet. Ensuite, juste en début d'après-midi, je vais rentrer chez moi pour comprendre le sens d'un beau cassoulet en regardant la télévision. Alors j'arrive presque en rampant. Attention, il ne faut pas marcher trop hâtivement, la digestion serait trop rapide. Et on va se mettre un peu à la manière de Madame de Récamier, sur une banquette, comme ça on est à moitié allongé, à moitié sur le coude. Il y a le côté un peu romain. Et là, on repasse tous ces jolis sons du cassoulet qui glougloutent sous le couvercle. Bon, bon. Et on met la télévision. À la télé, le samedi après-midi, il y a les matchs de rugby. Et vous voyez passer ce ballon ovale de l'écran gauche à l'écran droit, de la droite à la gauche. Et ça vous rappelle ce petit boum, 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 boum. Et ensuite, vous pouvez faire un petit siesto. Mais attention, toujours accoudé. C'est ça l'art du cassoulet. L'art et la manière du cassoulet du samedi. Mais je retrouverai peut-être demain dimanche pour le poulet aussi, parce que c'est pas mal le poulet, non?
Carrément, avec plaisir. Avec plaisir, Jean-Luc Petit-Renaud. Un nouveau sport, le rugby cassoulet. Cet après-midi, il y a le stade toulousain qui va jouer. C'est un sport que vous pourriez pratiquer, ça, Yves Condebord, le rugby cassoulet.
Rugby cassoulet entouré par Jean-Luc Petit-Renaud et Christian Constant, je pense que je peux passer
un
bon samedi après-midi. Ça a de l'allure.
Eh bien, merci aux camarades Jean-Luc Petit-Renaud qu'on retrouvera non pas demain dimanche pour le poulet, mais la semaine prochaine. Notre invitée bonne vivante connaît les différentes chapelles du cassoulet, elle aussi. Julie Andrieux mettra les pieds sous la table dans un instant. À tout de suite et bon samedi midi, les amis.
Laurent Mariotte sur Europe 1.
Bienvenue si vous nous rejoignez à la table des bons vivants. Après la charcuterie corse et le cassoulet de Jean-Luc Petit-Renaud, à la carte ce samedi, un plat du jour tentaculaire, du poulpe que nous irons cuisiner du côté de Marseille. Mais en attendant, c'est l'heure d'accueillir notre invitée. Curieuse et gourmande, elle promène sa fourchette dans toutes les régions qui savent recevoir. Enfant de la génération post-68, elle a été nourrie au plat préparé de sa maman avant de prendre en main son destin culinaire. Après avoir rafraîchi et dépoussiéré le genre des émissions de cuisine sur TF1 et Teva, elle débarque sur le service public avec ses découvertes et ses carnets de Julie. Elle a le goût des autres et des bonnes choses. Julie Andrieux est notre invitée. Bonjour Julie.
Bonjour Laurent. Bonjour à tous.
Bonjour messieurs. Ravi de vous recevoir.
Mais moi aussi, ravi d'être ici.
Comment va Micheline ?
Micheline va bien. On la pousse un peu, elle tout saute, comme moi. Hein, je commence à prendre de l'âge aussi.
Votre mais bon cabriolet rouge.
Elle va bien, oui. Que j'ai appelée Micheline. Bah oui, elle a à peu près la rapidité d'une Micheline. Mais c'est pour ça qu'on l'aime.
Bah exactement.
C'est important de prendre son temps.
Mais c'est ça que j'aime dans votre émission, justement. C'est que vous êtes à contre-courant du monde actuel où tout va très vite. Vous prenez le temps d'aller à la rencontre des gens. Et puis surtout, vous ne vous arrêtez pas aux régions administratives. Vous faites ce qu'on appelle les petits pays. Vous faites
les
la Basse-Provence, le Pays de Caux, les Pays de France.
Oui, ce sont des régions, des microcultures finalement, parce qu'à l'intérieur d'un département, bah, on peut trouver d'une vallée à l'autre des cultures très différentes, des produits différents. Puis c'est l'histoire d'une recette à travers l'histoire d'une famille, d'un village. Donc c'est vrai que souvent les gens nous disent « Mais vous avez, comment trouvez-vous encore l'occasion de faire des émissions ?» Je crois qu'on en est à 200, 250, je ne sais plus, je ne les ai pas comptées. Mais c'est infini, infini.
Oui, et puis l'émission évolue. La semaine dernière, vous consacrez vos émissions à des thématiques aussi.
Oui,
vous avez
absolument.
Fait le chocolat la semaine dernière.
Alors, c'était de saison.
C'est le pain cet après-midi ?
Oui, c'est vrai. Et par ailleurs, là, on a lancé deux nouvelles collections, comme on les appelle, des séries d'émissions. L'une sur les artistes gastronomes. Donc, on est allé dans la maison de Marcel Proust, la maison de la tante Léonie, chez Zola, magnifique découverte, chez Toulouse-Lautrec, Colette. Voilà, donc des gens qui, selon leur métier, avaient une passion commune pour la cuisine. Et donc, on découvre la cuisine de la région et puis aussi une autre vision de cet artiste. Et parallèlement, on a aussi lancé une série qu'on a appelée les paysans d'aujourd'hui, et je tenais à ce mot qui paraît parfois péjoratif pour nous citadins.
Je suis entièrement d'accord avec vous, j'adore ce mot.
Mais qui est très défendu dans les régions et par les gens qui eux-mêmes sont littéralement étymologiquement l'homme de la terre. Et donc ça c'était aussi passionnant et c'est un sujet que vous connaissez bien.
Le fils de paysan que je suis regardera justement.
Voilà,
parce que
ce qui n'est pas mon cas.
J'aime beaucoup ça. Janvier, c'est le mois des bonnes résolutions, oui. Julie Andrieux. Quelle est votre bonne résolution alors?
Ah, écoutez, en rigolant, je me suis dit faire moins la cuisine. C'est un peu un pied de nez, mais c'est vrai que j'y passe beaucoup de temps, surtout depuis que j'ai quitté Paris. C'est aussi un plaisir. J'ai un magnifique marché à Versailles où je suis. Et donc, je passe beaucoup de temps dans ma cuisine, qui est un peu un refuge, il faut le reconnaître. Je suis assez sauvage. Et là, je suis partie en vacances dans un endroit où je n'avais pas à faire la cuisine, à l'hôtel. Et j'ai dit à ma fille, alors les vacances t'ont plu? Elle m'a dit oui, c'était bien parce que tu ne faisais pas la cuisine. Et c'est vrai que voilà, à la fois, c'est un don de soi, mais en même temps, ça prend énormément
de temps.
Et je suis fière de ce temps que j'accorde à la cuisine, mais parfois, je me dis, il faut que j'arrive à me limiter un peu.
Pour faire la cuisine avec elle.
Ah mais je le fais, bien sûr. Alors après, je ne vous cache pas qu'il y a des moments où il faut que ça dépote un peu. Et quand vous faites la cuisine avec les enfants, il faut vraiment prendre le temps, il faut tout expliquer, il faut faire attention.
Exactement.
Mais c'est une joie.
Quel est votre goût de la semaine, Julie Andrieux?
Ce serait les amandes, la fameuse galette des rois. Voilà, le cours de cuisine que j'ai donné hier dans la classe de ma fille, parce que je pense que c'est important de leur expliquer comment les choses sont produites. On est resté un quart d'heure à parler de l'amande. L'amande douce, l'amande amère, où ça pousse, d'où ça vient. Et en fait, c'est toujours pareil, c'est comme à la télévision, comme à la radio. Du moment que vous savez raconter des histoires, vous pouvez faire passer tellement de choses.
Et la transmission, elle est importante, évidemment, avec les petits.
Elle est essentielle.
C'est eux les bons mangeurs de demain.
Les temps ont bien changé et positivement évolué, hein, je crois. crois. Depuis que moi, je me suis mise à faire la cuisine il y a 25 ans, ça n'a plus rien à voir. Ça intéresse les enfants, notamment grâce à Yves et à toutes ces émissions de concours culinaires qui ont popularisé la cuisine, qui l'ont mise à la mode. Ce n'est pas un mauvais mot, au contraire.
Non, on a sorti le cuisinier de l'ombre.
Mais bien sûr, et maintenant, c'est une vocation à laquelle on aspire quand on est jeune. Ouais, c'est formidable.
Parce que même sans parler de vocation aussi, c'est aussi que je pense que voilà, on retrouve du plaisir, quoi, le plaisir du partage, de la table. Voilà, on ne s'américanise pas. On reste bien français, voilà, à ces moments qui est tellement important.
Mais on a revalorisé le métier, c'est ça qui est important.
Et aussi, on a revalorisé le métier, mais aussi au quotidien, dans les familles.
Alors, rien à voir, Julie Andrieux, est-ce que vous avez une boîte de foie de morue dans le placard de votre cuisine ?
Ah non. Non, ça, j'avoue que non, je m'épargne ça.
Eh bien alors, attendez, parce qu'il va peut-être nous faire changer d'avis. Ah Yves Candebord a attesté cette petite boîte de conserve, la boîte de foie de morue qui revient en force hein, chez les grands cuisiniers aussi. C'est vrai que c'est bon, c'est sain, mais ce n'est pas toujours un bon souvenir pour tout le monde, la preuve avec Julie. Hein.
Et malheureusement, c'est vrai que la boîte de foie de morue, souvent que nos grands-mères et nos mères voulaient nous faire manger, on les mangeait assez brutalement, parce que voilà, on disait, faut manger le foie de morue parce que c'est bon pour la santé. Et ça, par contre, c'est une réalité. C'est de la vitamine A, c'est de la vitamine D, c'est de l'oméga 3. Alors moi, j'ai eu la chance de jouer au rugby. Pour la petite histoire, c'est l'entraîneur de rugby qui nous disait, les gars, mangez du foie de morue. Parce que vous allez avoir des os solides. Ah oui, vous n'aurez pas de blessures.
Pour la calcification.
Pour la calcification. Et c'est une réalité. Et c'est vrai que quand ça vient de son entraîneur de rugby, parce qu'on veut gagner sa place le dimanche pour jouer, donc on l'écoute et on mange du foie de morue. Donc moi, j'adore le foie de morue.
Vitamine A, vitamine D, donc vous nous dites d'en manger, on est d'accord, mais c'est vrai que c'est toujours un peu associé à une nourriture forcée, comme on le disait quand même. Hein.
Oui, mais justement, alors aujourd'hui, on la voit réapparaître de plus en plus voilà, dans la cuisine, je dirais contemporaine, parce que c'est un goût très particulier. C'est vrai que c'est iodé et aussi ça se goût un peu métallique. C'est le goût du caviar, la fin du bouche du caviar, ce côté métallique pour avoir le caviar.
C'est ça.
Et c'est très intéressant. Mais il ne faut pas la manger, c'est vrai, brutalement comme ça. Alors, je vous ai fait trois préparations.
Il est fort, Yves voilà. Candebord, ouais. Regardez.
Laurent, est-ce qu'on connaît son goût ici
ah ben vous connaissez le fameux veau italien, la recette italienne.
Vitello Tonnato, voilà. Oui, bien
là,
sûr.
Là, je l'ai tourné un peu, je dirais, à la française, avec du roast beef froid. J'ai pris une boîte de foie de morue dans un petit mixeur avec un jus de citron mixé. Ça me fait une crème de foie de morue avec le bœuf, ça relève, ça assaisonne.
Oh, j'adore.
Et ça donne,
c'est un vrai condiment, quoi.
C'est un vrai condiment.
Ça donne du peps, quoi.
Totalement.
Ah, c'est bien, c'est avec le reste du roast beef du dimanche, par
avec
exemple.
Le reste du roast beef du dimanche, ouais, même bon. J'ai envie de vous dire.
Les yeux fermés, j'aurais dit thon, effectivement. Et oui, on pourrait voilà. Et finalement, ça marche très bien.
En ce moment, le reste du pot-au-feu.
Oui,
voilà.
Absolument.
Voilà, pareil. Après, je vous ai fait quelque chose de plus végétal. Du fenouil.
Il ne s'arrête jamais.
Des oranges.
Quelle imagination.
Un petit citron. Et là, je prends carrément une boîte de foie de morue que je mets entièrement avec ouais. Son jus sur mon fenouil, je mélange le tout, j'ai juste rajouté un peu de noisettes torréfiées et ça fait une petite salade fraîcheur, une salade d'entrée qui est très agréable.
J'aime bien la consistance moi, du foie de morue, il y a ce côté effectivement fondant, moelleux, on dirait presque de la cervelle. Hein.
Ouais, c'est une texture ouais. Un peu de cervelle.
Ça aussi, ça fait partie des nourritures ouais. Un peu forcées c'est, d'enfance. Ouais. Hein. J'en ai mangé de la cervelle.
Des moi. Mauvais souvenirs pour ouais. Certains.
Mais surtout, c'est une profondeur de goût qui est vraiment intéressante, c'est très long en, bouche.
En bouche.
Orange,
une vraie intensité.
Noisette, fenouil et le foie de morue avec une petite cuillère de jus de citron. En fait, quand le foie de morue fait l'assaisonnement, fait la sauce.
Ouais, c'est super.
Et après,
ça.
Très simple, 2 cuillères de mayonnaise, une boîte de foie de morue, tout mixé. Et là, à l'apéro, avec des petits légumes.
Oui. Les choux-fleurs.
Des choux-fleurs, des carottes. Ça vous fait une petite crème.
Pour faut pas dire que c'est du foie de morue, quoi, finalement. C'est ça
en gros, c'est ça.
Et souvent, c'est ça, la vérité. Julie, tu as raison. Il faut pas en parler parce que ça a un goût. Je trouve que c'est, en fin de compte, c'est pas si fort que ça.
Non.
C'est suave et c'est très fin.
Et une belle longueur en bouche en plus. Hein.
Et n'oublions pas, Laurent, oui. Que c'est bon pour la santé. Ça, c'est important.
Et c'est accessible.
Et c'est accessible. Parce qu'on trouve des boîtes de foie de morue, là, j'en ai ramené quelques-unes. C'est entre 3 et 4 euros, les 125 grammes. Et on fait facilement pour 6 personnes une recette avec.
Est-ce qu'on vous a converti alors, Julie Andrieux ?
Mais moi, de toute façon, Yves me convertit à tout ce qu'il cuisine.
Hein,
donc, c'est
d'accord.
Pas compliqué.
Merci.
Dès que Yves touche un produit, c'est merveilleux. Non, je le dis vraiment sans flagornerie.
Bah moi aussi, je trouve ça très bon. J'en ai pas mangé depuis des années. Et ben, je vais peut-être acheter des boîtes de foie de morue.
Ah, bah, on saura quoi vous offrir alors.
Olivier, je vais vous en offrir. J'en ai amené.
C'est gentil.
Ne bougez pas, on vous emmène à Marseille dans un instant avec un plat de poulpe. Et Julie Andrieux est avec nous jusqu'à 12h30. Cette saison, le poulpe. A tout de suite.
Ça pour un euro.
Service, s'il vous plaît, on enlève un cabillaud aux pousses d'épinards.
Europe 1.
Et une cuisse de volaille, s'il vous plaît.
11h30, la table des bons vivants, Laurent Bariotte.
Nous sommes ensemble depuis 11h sur Europe 1. Installez-vous à la table des bons vivants si vous venez d'arriver. De la vraie charcuterie corse, des conseils pour manger sans complexe et avec plaisir grâce au docteur Zermati et le bon goût de Julie Andrieux, notre invitée, jusqu'à midi et demi.
Et du délicieux foie de morue.
Et le bon foie de morue cuisiné par Yves Candebord. Absolument, Olivier Poul, vous avez raison. Julie, vous êtes une exploratrice du goût et de nos terroirs. Avec fourchette et sac à dos, vous avez voyagé dans plus d'une trentaine de pays, hein, oui. Je me souviens. Vous avez participé à de belles parties de pêche en Asie aussi. Hein.
En Asie, je vous vois venir.
Oui, racontez-nous.
Au Vietnam, notamment dans la baie d'Along. On est parti sur une jonque, c'était évidemment merveilleux. Et avec le pêcheur, on a imaginé cuisiner, chacun à sa façon, le même poisson, ce qu'il avait pêché la pêche du jour. Et c'était assez amusant parce que c'est une vraie leçon. Il avait pêché un poisson que je serais incapable d'identifier. Chacun, on a démarré notre préparation et lui, ses premiers gestes, ça a été de vider le poisson, de l'étêter et de cuisiner quoi, les entrailles et la tête. Et il a laissé le reste parce qu'il considérait que c'était un événement et qu'il allait m'offrir le meilleur du poisson. Et moi, j'ai commencé à lever les filets et là, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment nos deux cultures étaient complètement opposées. Et finalement, avec le même poisson, on a fait deux plats, donc économiques.
Mais rien qu'en France, déjà, quand on vous voit dans nos régions, les différences entre les régions. On a un pays magnifique, entre nos côtes, entre le maraîchage, l'élevage et les fromages qu'on fabrique chez nous. On voit qu'il y a plein de cultures et plein de façons de manger différentes. Vous le disiez, vous allez consacrer des émissions aux paysans d'aujourd'hui. Ouais. Ça veut dire quoi? Vous allez aller visiter les fermes auberges? Vous allez parler de circuits courts?
Oui, on se rend. Il y en a déjà quelques-unes qui ont été diffusées. On se rend dans une ferme. On va rencontrer des paysans qui, en général, sont en polyculture élevage, donc qui ont plusieurs produits à nous proposer. Donc, on peut parler de chacun des produits, de leur démarche. Ce sont des gens qui ont une démarche engagée. On est souvent dans le bio, évidemment, pas seulement. J'aimerais bien trouver des gens qui ne soient pas forcément dans le bio et qui travaillent d'une façon vraiment éthique et écologique. Il y en a, bien sûr.
Mais il y en a plein parce que le bio coûte aussi un peu d'argent.
Absolument.
Pour certains qui
après,
peuvent pas se
il faut à un moment un label, un contrôle, une charte. C'est-à-dire que le reste, c'est vraiment c'est une question de confiance. C'est assez flou.
Alors nous aussi, on aime rencontrer des gens passionnés à la table des bons vivants. C'est ce qu'on va faire avec un cuisinier dans un instant parce que c'est l'heure du plat du jour. Un plat que nous allons aller cuisiner du côté de Marseille avec un ingrédient qu'on voit de plus en plus sur les tables des restaurants parisiennes surtout, j'ai envie de dire. C'est le poulpe.
Oh, j'adore.
Vous aimez le poulpe?
Ah, la jambinette de poulpe que Camille, s'il m'écoute, le pêcheur de Marseille, m'avait cuisiné. C'est un grand souvenir.
Ah, c'est super. Vous l'aviez pêché comment? Racontez-nous.
On l'avait pêché à la pâte de poulet. À la pâte de poulet au bout d'un fil.
Et pourquoi pas?
Dans un petit pointu. Et ça avait marché. Et ce plat, qui est une sorte de daube de poulpe. Le poulpe, ça se prête à plein de préparations, finalement. Hein. Aussi bien nature grillée qu'effectivement mijoté pendant des heures avec des olives, du piment,
ouais, c'est bon, ça.
La tomate. C'était bon.
Alors, le poulpe est à l'honneur dans le restaurant de l'école d'art et de design de la ville de Marseille. Ils ont leur propre restaurant qui s'appelle Gargantuart. Et en passant cuisine, justement, Nathalie Chevance, la correspondante d'Europe 1, est aux côtés de Philippe Ivanez, le chef, dans son restaurant Gargantuart à Marseille, en route pour le poulpe. Comment le cuisine-t-il? Eh bien, avec des ingrédients de saison, écoutez.
Alors aujourd'hui, on propose un poulpe de roche de Méditerranée. Là, pour le moment, on va le pocher dans un bouillon bien chaud pendant au moins une vingtaine de minutes.
Qu'est-ce qu'il y a dans le bouillon?
Il y a des agrumes de Méditerranée, donc de Marseille, d'Italie, d'Espagne, puisque c'est la saison des agrumes, et des feuilles de citron kaffir, c'est plus un citron asiatique. Et voilà, ça va donner un parfum à l'intérieur de la chair du poulpe.
Alors là, on sort le poulpe.
Voilà.
Donc là, maintenant, on va découper.
Découper le poulpe, découper les tentacules, enlever la tête. On étale bien les tentacules, ensuite on le réarrose d'huile d'olive. Alors là, j'ai mis de l'ail, j'ai râpé du citron non traité qui vont faire que ça va continuer à parfumer et caraméliser les tentacules.
Allez, on enfourne.
Voilà, on fait cuire pendant là à peu près une vingtaine de minutes à 250 degrés. Et on le retourne de temps en temps.
Alors maintenant, on fait quoi?
Bah là, maintenant que c'est fini, on va pouvoir le découper en tronçons et on va pouvoir le déguster. Terminé avec de la coriandre dessus et on a... justement, un poulpe avec un goût terre-mer.
Le poulpe, c'est vrai que c'est un indispensable de la cuisine méditerranéenne aujourd'hui, Yves Candebord.
J'ai envie de dire, Laurent, c'est un indispensable de la cuisine méditerranéenne. Et malheureusement, je trouve qu'il est un peu trop présent maintenant dans les cartes, comme vous disiez tout à l'heure, parisiennes. Parce qu'aujourd'hui, le poulpe, qui était un ingrédient aussi de base, c'était un ingrédient qui était accessible à beaucoup de monde. Ça faisait partie des poissons qui étaient assez peu coûteux. Aujourd'hui, commence à coûter de l'argent.
Je suis d'accord, mais là, c'est une très belle recette que vient de nous faire Philippe Ivanez.
Hein. C'est une très belle recette qui est très intéressante parce qu'en fin de compte, c'est cuit de deux façons. Il la poche pendant 25 minutes et il a rôti 25 minutes. Mais c'est vrai que le poulpe, la cuisson du poulpe, est sans doute l'une des cuissons les plus délicates à réaliser parce qu'un poulpe trop cuit, ben on est sur du caoutchouc et un poulpe qui n'est pas suffisamment cuit n'a pas gros intérêt.
Moi, je l'aime dans la tielle sétoise aussi. C'est
ouais,
délicieux, ça, hein, Julie Andrieux.
C'est tourte.
C'est bon, ça. Hein.
C'est délicieux, ça. Ça fait partie vraiment des spécialités à découvrir.
Qu'est-ce qu'on boit avec le poulpe, Olivier Pouls?
Moi, j'aime bien les accords régionaux, évidemment. Et puisqu'on parle de poulpe de Méditerranée, il faut se rappeler qu'il y a des jolis vins blancs aussi autour de la Méditerranée, même si on en voit de moins en moins. Il y a de plus en plus de vins rosés et de moins en moins de vins blancs. Mais dans la région de Bandol, par exemple, vous avez quelques blancs absolument magnifiques qui s'accorderont très, très bien
des
avec le poulpe.
Des coteaux varois aussi, une petite appellation qui est sympathique.
Quelques coteaux varois, les blancs de palette, par exemple, ou de cassis, il y a des choses tout à fait intéressantes.
Alors ne bougez pas avant de découvrir Julie Andrieux côté fourchette. Nous allons répondre aux questions que vous avez posées au 3921 et puis sur la page Facebook des Bons Vivants. Ce sera juste après ça. A tout de suite. Bon samedi midi.
Europe 1, la table des Bons Vivants. Laurent Mariotte.
Manger, c'est incorporer un territoire. C'est une phrase de Jean Brune, géographe toulousain de la fin du 19e. Eh ben, c'est pas Julie Andrieux, ambassadrice de nos régions, qui dira le contraire. Hein,
certes.
Il y a un peu de ça.
Dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es. Ça pourrait être ça aussi.
C'est ça, ça marche aussi. Julie Andrieux, vous animez des émissions où il est question de transmission, de partage autour des recettes familiales. Vous avez été élevée au plat préparé par votre maman Nicole Courcelles. Hein, vous en parlez souvent dans les interviews. Vous pensez que la nouvelle génération qui débarque fait peut-être plus attention que la précédente hein, sur
certainement,
sur sa
mais
façon.
Comme le disait Yves, c'est devenu un plaisir familial, c'est devenu même un loisir créatif, c'est valorisant. Et puis je pense qu'aussi à l'époque, il me semble, hein, où j'ai commencé, on se disait il n'y a pas d'autre voie que soit celle des chefs, donc une cuisine effectivement assez sérieuse, très académique, mais à travers laquelle il fallait avoir des vraies connaissances, ou la cuisine c'était Maïté. Donc c'était la cuisine de nos grands-mères, mais quand on n'avait pas eu ce patrimoine-là, on était au milieu, dans une espèce de déshérence culinaire, en se disant non, je n'ose pas, je ne peux pas m'y frotter. Parce que la cuisine est une affaire très sérieuse en France. Et c'était peut-être un peu un frein aussi, c'était intimidant. Et moi, j'ai fait ce pas en me disant, après tout, ce n'est pas parce que je ne sais rien, ce qui était quand même à peu près le cas, que je ne peux pas essayer. Et j'ai appris de mes erreurs, mais c'est peut-être aussi comme ça que j'ai pu transmettre.
Oui, vous avez décomplexé la cuisine aussi. Hein.
Oui, avec pas mal d'aplomb. Mais aujourd'hui, quand, rétrospectivement, je me dis, c'est fou d'avoir commencé à cuisiner sans rien savoir.
Je me souviens d'un saumon, la vaisselle, moi, que vous avez fait.
Oui, ça c'était un clin d'œil. Les Américains l'avaient fait avant moi. Mais j'ai beaucoup lu, en revanche. Je me suis nourrie notamment du livre de Michel Guérard, des livres de Michel Guérard qui ont été mes premières lectures. Je le continue aujourd'hui. Je lis des livres de cuisine et on apprend beaucoup comme ça.
Alors ici, vous le savez, on aime répondre aux questions des auditeurs. Il y en a plusieurs. Il y en a une première au 3921.
Bonjour, Catherine au Barbou dans le Doubs. Je vous souhaite à tous une très bonne année.
Bonne année.
Et j'ai une petite question pour Laurent. Voilà, j'ai essayé de faire des meringues et c'est une catastrophe. Pouvez-vous m'aider? Je vous remercie. Au revoir.
Bah, qu'est-ce qui se passe, Catherine? Bonne année, Catherine. Une catastrophe, les meringues. Pourtant, c'est assez simple. Il ne faut pas mettre les jaunes, hein, Catherine. Attention, c'est que les blancs d'œufs avec du sucre. Voilà.
Ouais, avec du sucre aussi, on peut mettre une petite pointe de citron aussi qui va permettre de les serrer. Bon, il faut bien sûr bien les monter.
Oui.
Alors, l'important aussi, c'est de mettre le sucre à fur et à mesure.
Voilà. Et il faut avoir le bec,
quand,
hein, c'est comme
pour
une
chantilly. Et quand les œufs sont déjà un peu montés aussi.
Voilà, c'est-à-dire que quand on appelle le bec, ça veut dire c'est quand on enlève le fouet
c'est ça.
Des blancs. Donc au bout du fouet, il y a un petit bec qui apparaît. C'est là qu'on dit qu'ils sont bien montés. Quoi.
Alors la température est très importante, la température du four, surtout pas trop chaud. Hein, c'est doux, c'est 80-100 degrés.
Ouais,
hein.
Voilà, c'est 80-100 degrés. Alors j'ai envie de vous dire, le temps de cuisson va dépendre aussi un peu de votre puissance de four. Il faut prendre le temps et aller les tester quand on les a bien fermes.
Et de la taille des meringues aussi, effectivement.
Et bien
si on
sûr,
fait une pavlova,
de
ça va être différent des petites.
Et il y a souvent aussi, après, il faut bien les conserver. Quand vous les sortez du four, vous allez les laisser refroidir à température ambiance. Et quand elles sont totalement froides, l'idéal, c'est avoir ces fameuses boîtes en fer qu'on retrouvait avant, les boîtes à biscuits, les mettre dedans, les enfermer dans un endroit sec pour bien les conserver. Surtout, pas d'humidité.
Ouais, faut pas qu'elles soient ramollos.
Voilà.
Et puis le petit truc de Julie, hein, vous avez entendu, c'est pas la même durée de cuisson selon qu'elle soit petite ou grosse. Si on veut faire une pavlova ou une pavlova,
une, je crois.
C'est la danseuse, voilà, bien sûr.
Anna Pavlova, c'est vrai.
Une autre question au 3921.
Bonjour les bons vivants, c'est Louise de Mélan. Alors j'ai une petite question, je voulais savoir comment faire pour pimper mes soupes et changer des traditionnels croutons. Voilà, bon bah merci beaucoup, au revoir.
Pimper les soupes, voilà.
Pimper les soupes.
Alors oui, tout le monde ne sait pas ce que ça veut dire pimper. Pimper,
réveiller,
ça veut dire
c'est
réveiller,
ça. Ouais, twister,
changer, modifier.
D'accord.
Voilà, donc... comment on peut faire pour pimper les soupes. Vous qui êtes un pimper,
oui,
Olivier Pouls.
Je pimpe beaucoup. Moi, j'aime bien utiliser ma boîte à épices. Je trouve que les épices dans les soupes, c'est vraiment très intéressant. Il y a plein de choses à jouer. On peut rajouter un peu de curry, on peut rajouter un peu de cumin. On peut vraiment s'amuser à créer des saveurs nouvelles. Et puis sinon, ce qu'on peut faire, c'est travailler aussi des produits qu'on va rajouter. Faites une chantilly, par exemple, une chantilly que vous avez elle aussi aromatisée. Une chantilly aromatisée au lard, par exemple.
Oui,
faites infuser
le lait,
du lard dans la crème. Et puis après, vous la montez en chantilly. Vous avez une chantilly qui sent le lard fumé. Il y a plein de choses qu'on peut faire.
Et puis si vous voulez enlever les croûtons, c'est vrai que les croûtons, il y a ce côté aussi excitant du croustillant, mais c'est rajouter des graines, un peu des graines de tournesol, du sarrasin grillé, de l'épeautre soufflé. Surtout qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de possibilités d'achat très faciles.
Et vous ?
Et c'est très agréable.
Julie Andrieux. Oui, j'allais parler des graines et des céréales. L'épeautre, c'est merveilleux dans les soupes. On en trouve beaucoup, même dans les soupes traditionnelles. On peut même les cuire, d'ailleurs, les graines de céréales, les graines de tournesol, on peut les cuire dans la soupe. C'est intéressant parce que du coup, elles seront plus digestes. Elles vont apporter de la mâche, du croquant. Oui, les épices aussi.
Les huiles, moi j'aime beaucoup mettre des huiles. Huile de pépins de courge, huile de cameline, une belle huile de colza,
Elle
première
accrue,
pression
l'huile
à froid.
De cameline, hein, effectivement.
Accrue, voilà. Avec ce petit goût, ça fait presque vinaigrette l'huile de cameline. Hein, elle a un petit côté acidulé comme
puis
ça.
Après, n'oublions pas les choses peut-être plus classiques.
Les petites tranches de lard.
Mais oui, voilà, ça marche.
Le croustillant du cochon, on sait très bien que le cochon, tout est bon.
Et tout ça en cuisinant avec un tablier Julie Andrieux. Hein,
et pourquoi
bien sûr,
pas
parce
mais
que, voilà,
oui,
vous
c'est
faites
recommandé.
Des tabliers aussi,
et
Julie
oui,
Andrieux.
Quand on cuisine avec un tablier Julie Andrieux, on fait des miracles.
Mais voilà, exactement. Alors ne bougez pas, on revient dans un instant avec les 2 minutes du vin d'Olivier Pouls consacrées à la notion de terroir dans le vin, justement. Votre questionnaire n'est pas loin, Julie Andrieux.
J'ai le temps de manger du lonzo.
Ouais, vous pouvez terminer le lonzo. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, Laurent Mariotte vous accueille à la table des bons vivants.
Je reçois gentiment, c'est agréable. Je reçois pour affaire, donne pas des matinées enfantines.
Dernier acte de la table des bons vivants en compagnie de Julie Andrieux. Vous allez vous frotter dans un instant notre questionnaire, Julie Andrieux.
Avec plaisir.
Mais avant, on va parler de Julie Andrieux en cuisine chez elle à la maison parce que vous êtes une jeune maman. Vous nous l'avez dit tout à l'heure, vous passez beaucoup de temps en cuisine. Qu'est-ce que vous faites à vos enfants et à votre chérie?
Qu'est-ce que je fais? Alors mes enfants, ils sont comme tous les enfants du monde. Hein. J'ai un peu de mal avec les légumes. Il y en a certains qui passent. Donc il faut twister, comme on vous disait tout à l'heure.
Faut pimper
grave. Donc j'ai remarqué que le potiron, potimarron, les courges, ça passe.
Oui,
mais faut pas leur dire que voilà.
C'est sucré.
Mais on en fait des sauces, on en fait des gratins. La courge spaghetti, ils adorent.
C'est
avec
super,
une petite sauce crémée. Un peu de... Parfois, je mets un petit peu de curcuma.
Les choux de Bruxelles.
Non. Je pense que vraiment dans l'enfance, s'il y a un truc qui me terrorisait, c'était le chou de Bruxelles. J'ai gardé un peu ce...
Comme Olivier
Pouls. Aujourd'hui, je reconnais que ça se cuisine et que c'est comestible.
Les pâtes aussi, ça permet de faire découvrir
alors,
des légumes.
Les pâtes, on en fait tout le temps. Et ça peut être sublime, les pâtes.
J'adore ça,
facile à rater. Hein, mais quand on commence à maîtriser, c'est un bonheur absolu. Et moi, c'est vrai que je pourrais me contenter de pâtes tous les jours, à condition de renouveler. Là, récemment, je leur ai fait des pâtes avec du brocoli et des anchois. Ça marche très bien.
L'anchois, c'est costaud pour les enfants.
Oui, mais quand on le fait fondre avec un peu d'ail. Je mets beaucoup d'ail, moi, dans ma cuisine, et notamment pour les enfants. Je mets toujours une gousse d'ail que j'enlève souvent après, mais ça donne un petit goût. Les carottes, par exemple, ils adorent mes carottes. Et souvent, les mamans me disent, mais comment tu fais? Mais je les émince, je les fais revenir à sec, hein, avec un peu de beurre et un tout petit fond de bouillon de volaille et une gousse d'ail que je retire à la fin, et jusqu'à ce qu'elle caramélise. C'est des choses assez bêtes, mais ça fonctionne. Et puis souvent, la présentation. J'ai remarqué que, par exemple, je prends des petit cure-dent, je mets un bout de saucisse, un bout de carotte, un bout de tomate, je fais revenir ça à la poêle.
Ah, écoute,
et là, tout d'un coup, sur le petit cure-dent, ça passe beaucoup mieux.
Ah, elle est forte, on ne l'arrête jamais. Alors, Julie Andrieux, vous aimez passer du temps du côté de Saint-Émilion. Quelle place le vin tient-il dans votre vie? C'est une place importante?
Alors, moi, je suis exactement dans l'entre-deux-mers, j'y tiens. Parce que c'est une région méconnue, mais merveilleuse, très poétique.
Avec de jolis vins.
Avec de jolis vins, alors beaucoup plus modestes que Saint-Émilion, qui pourtant est à 10 km de chez moi. Mais plus accessible, des très beaux blancs, quelques jolis rouges aussi. Le vin tient une place importante. Je n'ai pas une énorme culture viticole, parce que ça prend du temps. Et là, il faudrait vraiment que je me plonge dans le sujet, mais j'apprécie beaucoup. Mais en revanche, c'est vrai que j'ai du mal à ne pas faire un bon repas avec un verre de vin.
Alors Julie Andrieux, vous qui êtes très attachée aux différents terroirs français, on a demandé à Olivier Pouls ce que ça voulait dire justement pour le vin, cette notion de terroir. Cher Olivier, qu'est-ce que c'est que le terroir? Tiens, revenons aux bases.
Ça dépasse aussi le cadre du vin, mais là on va se centraliser un peu sur le vin. Mais finalement, qu'est-ce que c'est? C'est une notion qui est très ancienne et qui fait un peu la particularité de notre vignoble français, celui que le monde entier nous envie. C'est en quelque sorte l'adéquation entre un lieu, la nature d'un sol, sa composition, les micro-organismes qu'on va y trouver, mais aussi un climat, l'ensoleillement, l'orientation des parcelles, les vents, et puis aussi une notion de pratique, de tradition et de savoir-faire. Voilà, c'est une espèce de tout, on ne peut rien enlever. C'est ça la notion de terroir au sens large.
Oui, et puis c'est un savoir qui s'est affiné au fil des âges.
Ben, évidemment, parce qu'on s'est de tout temps rendu compte qu'il y avait des endroits dans lesquels on produisait de meilleurs vins que d'autres. Et évidemment que si on prend par exemple la région bourguignonne, qui est très intéressante pour l'étude du terroir, ben, dès le Moyen Âge, les moines, au moment de l'abbaye de Cîteaux, avaient déjà cartographié la Bourgogne au mètre près, uniquement en dégustant des baies de raisin. C'est absolument incroyable. Donc, ils avaient déjà identifié qu'à cet endroit-là, c'était bon. Et puis là, à un mètre plus loin, parce qu'il y avait un petit ruisseau ou autre chose, ben, c'était moins bon. Et donc, ils avaient déjà défini cette cartographie.
Alors, le terroir, c'est une chose, mais le cépage, il a son mot à dire aussi, quand même.
Ben, le cépage, c'est la variété de raisin. En fait, le cépage, il sert à quoi? Il sert à exprimer le terroir. Un vin ne doit pas avoir le goût de son cépage. Un Bourgogne ne doit pas avoir le goût du Pinot Noir. Il doit avoir le goût de l'endroit dans lequel il est né. Et c'est pour ça, par exemple, que si vous buvez un Gevrey Chambertin, je vous apporte là un Mercurey, ou si vous goûtez un Von Romané ou un Pommard, il n'a pas le même goût. Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas issu du même terroir. Et pourtant, c'est le même cépage et c'est souvent même la même méthode de vinification.
Et puis pour s'y retrouver, de toute façon, il existe une cartographie très stricte et très précise des terroirs.
Ben, la création des appellations d'origine contrôlée dans les années 30, c'est la définition de ce qu'étaient les grands terroirs français qui avaient une identité. Alors ça bouge, bien évidemment, puisqu'on en découvre d'autres, on en redécouvre d'autres, et petit à petit on affine, mais enfin, globalement, on trouve effectivement la base de ce que sont les grands terroirs français.
Et il y a une hiérarchie, justement, aussi.
Évidemment, je reviens à ma Bourgogne, entre des terres qui sont en bas de coteau et qui vont faire de l'appellation régionale, entre l'appellation village, qui est le premier niveau, l'appellation premier cru ou grand cru, sont des terroirs différents, des niveaux de qualité différents aussi.
Eh ben bravo, je vous mets 20 sur 20. Sommelier en chef, œnologue en chef, Olivier
Pouls. Écoutez, cette année 2020, je prends.
Et on vous retrouve sur Europe 1, justement, chez Mathieu Noël, dans l'équipé sauvage, de 16h à 18h. Julie Andrieux, vous êtes prête?
Je suis prête, à quoi donc?
Ah, ça va chauffer.
Toujours prête.
Vous allez passer sur le grill du questionnaire des bons vivants.
Ah.
Vous l'entendez? Ça chante.
Je l'entends.
Ça frétille. Julie Andrieux, quel est le goût de votre enfance?
Le goût de mon enfance, pour garder les bons souvenirs, alors ce seraient les petits farcis que me faisait une charmante dame. Nous avions une maison à Valbonne, qui est un joli village de l'arrière-pays niçois, et elle me faisait ses farcis avec des blettes, un talon de jambon, je me souviens, un peu de parmesan. Évidemment, la chair du légume et tout ça confisait pendant des heures. Et donc moi, comme vous l'aviez dit, qui était élevée au surgelé, là quand même, j'arrivais à faire la part des choses et comprendre que c'était une merveille.
Le premier plat que vous avez cuisiné, Julie Andrieux?
Eh bien, ce serait une terrine de foie de volaille, celle de Michel Guérard. Dans sa cuisine gourmande, j'ai donc sorti ce livre de la bibliothèque. Le hasard a fait que je suis tombée sur un bon livre. Et je me suis dit, puisque la terrine de foie de volaille était le plat favori de mon amoureux de l'époque, je me suis dit, si je peux réussir ça, tout est possible dans la vie. Et la première était quand même franchement ratée, parce que je l'ai sortie du four, j'avais suivi les indications, et puis je voyais plein de gras, plein de liquide, plein de bouillon. Donc j'ai tout épongé, donc c'était très très sec. La deuxième était meilleure, et la troisième, a priori, a plu.
Ah.
Et là, je crois que ça a été vraiment un tournant, un turning point dans ma vie, et j'ai pris confiance. Et c'est devenu un de mes plats fétiches, et les copines me le réclamaient.
Votre plus beau repas?
Peut-être avec Claude Lebet. Claude Lebet, qui était donc ce journaliste, critique gastronomique, éditeur, qui était vraiment mon mentor. Et Claude m'a emmené chez Ferran Adrien. Et on a déjeuné dans la cuisine, ou dîné, je ne sais plus, dans la cuisine. Et l'échange entre ces deux...
Ah oui, c'est beau, ça.
Ces deux grosses pointures de la cuisine était merveilleux.
Et votre pire repas, Julie Andrieux?
Il y en a eu beaucoup quand même. Non, je dirais que peut-être l'époque de la critique gastronomique où il fallait sillonner Paris, déjeuner seul, parce que c'était pas pris en charge, donc j'avais pas beaucoup de moyens. Déjà, c'était pas très bien payé, mais je le faisais pas pour ça. Donc déjeuner seul dans des restaurants qui étaient pas toujours terribles.
C'est triste.
C'était
ça.
Un peu glauque.
Oui,
c'était
d'accord.
Un peu glauque, mais formateur. On a tous galéré dans notre jeunesse.
Absolument.
Il faut galérer quand on est jeune.
C'est vrai qu'on idéalise les critiques culinaires,
non.
Mais c'est des grands moments de solitude souvent.
Ouais, absolument.
Quel plan mèneriez-vous sur une île déserte?
Ah, écoutez, alors là, sans hésitation, une bonne baguette et du bon beurre. Mais attention, du bon beurre, parce qu'il y a vraiment beurre et beurre.
Oui, du bon
je
beurre
frais.
Je ne
l'achèterai pas au supermarché.
Votre adresse secrète, Julie Andrieux?
Elle n'est pas si secrète, mais je vous citerai le restaurant qui a ouvert au coin de chez moi, là, au coin de ma rue, Xavier Pincemin.
À Versailles?
Oui, à Versailles, qui était un des gagnants de Top Chef, je crois, d'ailleurs. Et c'est là, ça,
on en dit
ça,
beaucoup de bien.
Ça a
oui.
vraiment embelli le paysage gastronomique versaillais. Je lui tire mon coup de chapeau.
Quel est le dernier plat que vous avez cuisiné?
Le dernier plat. Ah ben ce matin, je fais un tagine de poulet aux olives et au citron confit. Parce que je cuisine souvent le matin. J'ai la chance de ne pas devoir aller au bureau à 8h. Donc j'ai fait ça pour le week-end.
Du batch cooking alors vous faites ?
C'est quoi ?
C'est ça, c'est quand on fait la cuisine à l'avance pour ne pas avoir à
faire
le jour même.
Ah oui, on pimpe. Je me mets à la page avec vous. Bah oui, c'est ça. Bah oui, moi dès que j'ai un petit moment de libre, je cuisine.
Vous avez bien raison. Et le mot de la fin, F-A-I-M.
Ah bah ce serait Colette, dans la maison de laquelle j'étais il y a peu de temps, et je crois que c'était « Si vous n'êtes pas capable d'un peu de sorcellerie, rien ne sert de se mêler de cuisine ».
Ah c'est joli ça. Eh bien merci, merci beaucoup.
Merci,
on vous applaudit. Julie. Merci d'être venue, Julie merci. Andrieux, qu'on retrouve cet après-midi dans les carnets de Julie sur France 3.
Exactement, absolument. À 16h, 15 et 16h.
15h et 16h. Merci à Lucie Lescourou, Julien Amat de m'avoir aidé à préparer cette émission, Yves Candebord, Olivier Pouls, Marion merci. Sauveur. Merci à notre Jean-Luc Arblat national à la réalisation. Agnès Vaudin à la programmation. Les recettes et les références vous attendent sur europe1.fr. C'est la même adresse pour vous abonner au podcast. Faites le marché, la cuisine et le reste aussi.
Et bon week-end. Semaine.
Salut
semaine.
Justine, bon week-end.
Oui, bon week-end Laurent. À samedi prochain dès 11h pour la suite du programme. On ne change pas les bonnes habitudes, bien sûr, sur Europe 1. Dans quelques minutes, on retrouvera Fabienne Lemoyle pour les titres du journal de la mi-journée. Et à 15h, vous avez rendez-vous avec Isabelle Morizet pour Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Elle reçoit aujourd'hui le compositeur, violoniste et chef d'orchestre Vladimir Kosma. Très bon week-end avec Europe 1. Il est midi 27.